C'est la Terre au carré sur France Inter. Bonjour Camille Crenier et Mathieu Vidal.
Bonjour Laetitia, tout va bien ?
Tout va bien.
Bon, bah écoute, revenez tout à l'heure, il y aura d'autres infos à 15h.
Bonjour, alors je m'appelle Delphine, je vis dans le Haut-Jura, à Morbier. Je vous écoute souvent et je vous remercie pour vos superbes émissions qui sont toujours très intéressantes avec des vrais sujets d'écologie. Je vous ai écouté hier sur un sujet un peu bizarre, la Terre plate. Je voulais vous laisser un petit message pour vous dire que j'ai quand même été choquée qu'à plusieurs reprises, vos intervenantes associent le mouvement platiste, si on peut dire ça, au mouvement anti-vax. En fait, dans les gens qui se posent actuellement des questions sur le vaccin ARN, sur la vaccination des enfants, des jeunes, sur la vaccination forcée dans plein de professions, sur le pass vaccinal, le pass sanitaire, il n'y a pas que des anti-vax. Il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, qui sont à jour du reste de leur vaccin, et puis qu'on fait vacciner leurs enfants. Associer ça aux gens qui pensent que la Terre est plate, franchement, ça n'a aucun sens en fait. C'est réducteur et puis c'est méprisant. C'est la première fois que je laisse un message. Je vais continuer à vous écouter. Alors à bientôt pour de prochaines émissions. Au revoir.
Bonjour Fabienne de Domez. J'aimerais avoir des nouvelles de la cuve de l'EPR de Flamanville. Elle était fendue, il fallait la réparer. Voilà. Ça me rappelle quand je travaillais dans un restaurant. S'il m'arrivait de heurter des assiettes de porcelaine, je me faisais engueuler. Même s'il n'y avait pas de résultat apparent, on me disait que la porcelaine gardait le souvenir du choc et que ça la fragilisait. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour la Terre au carré, c'est Michel du Pays de Bray. Je voulais vraiment exprimer ma forte inquiétude à quelques 2 mois d'élection présidentielle vis-à-vis de la très faible présence dans le débat des questions environnementales. Mis à part Yannick Jadot, personne ne dit ce qu'il va faire à long terme pour empêcher l'espèce humaine de s'autodétruire. Le seul point abordé, si par hasard la question est posée, c'est le nucléaire. Comme si toutes les prochaines questions environnementales qui planaient au-dessus de nos têtes se résumaient à ce seul nucléaire. Voilà, en espérant que ça évolue rapidement. Merci, ciao, bye.
Bonjour, c'est Georgette de Perpignan. J'aimerais bien que vous fassiez une émission qui parle de la consommation terrible en carburant qui fait du CO2, là, avec tous les bateaux, parce qu'on parle des avions, mais alors les cargos, les gens qui font des croisières, les machins, ils ont tous d'énormes moteurs diesel, mais ça pollue affreux, ça. Et on n'en parle pas. Alors, ben voilà, même le Jadot, là, que j'aime bien, ben il n'en parle pas. Ben faites une émission là-dessus, je vous aime bien, je vous écoute tout le temps. Au revoir.
Cher Georgette de Perpignan, merci pour votre message. Eh bien, on va vous engager pour faire la programmation de la Terre au carré, parce que justement, nous avions dans les tuyaux de vous proposer une émission sur cette question de la pollution du transport maritime. Ce sera donc chose faite, allez, dans quelques jours, le 30, de trouver des bons invités pour en parler. Merci en tout cas pour vos messages, et vous avez certainement des idées également à transmettre aux candidats à l'élection présidentielle, et pas seulement au Jadot, donc n'hésitez pas à le faire en appelant le 01 56 40 45 45. En 2019, pour la seule année 2019, 1 200 000 personnes sont mortes dans le monde d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, ce qui représente plus que les décès dus au sida ou au paludisme. Ce chiffre édifiant vient d'être publié dans une étude de la revue scientifique The Lancet. Il s'agit de la première analyse complète de l'impact mondial de la résistance aux antimicrobiens qui portait sur 204 pays. Ces résultats confirment donc que la résistance aux antibiotiques est devenue une menace à prendre très au sérieux. Certains scientifiques parlent même d'une pandémie silencieuse. Mais pourquoi certaines bactéries parviennent-elles à modifier leur comportement pour survivre au traitement antibiotique, et comment lutter contre cette résistance qui est devenue donc un enjeu majeur de santé publique pour les humains comme pour les animaux? Eh bien, c'est le dossier cet après-midi de la Terre au carré. Avec nos invités, en studio avec nous, le professeur Antoine Andremont. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et la microbiologiste Marie-Cécile Ploix en duplex des studios de France Bleu Limousin à Limoges. Bonjour.
Bonjour.
Antoine Andremont, vous êtes professeur émérite de médecine à l'Université de Paris et l'un des principaux experts internationaux dans ce domaine, de l'étude de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Vous avez publié en 2017 « Antibiotiques, l'overdose » chez Bayard. Et Marie-Cécile Ploix, vous êtes microbiologiste au CHU de Limoges, professeur à l'Université de Limoges et vous êtes directrice d'une unité de recherche INSERM sur la résistance aux antimicrobiens. On se retrouve donc dans un instant pour comprendre les stratégies des bactéries face aux antibiotiques et voir comment lutter contre cette antibiorésistance qui est aussi, on le verra, un vrai problème environnemental. Les messages et les questions des auditrices et des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Oui, avec l'histoire d'Umbertium Covidum. Petit vert, tout noir, tout brillant, avec une tête de marteau. Nouvelle menace potentielle de nos jardins.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati, avec à la technique Michel Bézikian.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Partout dans le monde, les résistances aux antibiotiques se multiplient. Ce qui majore le risque que les infections bactériennes touchant l'être humain et l'animal ne puissent plus être traitées ou avec difficulté. Les conséquences sont graves et concernent aussi bien les êtres humains que les animaux, l'agriculture et l'environnement.
Voilà, petit reportage proposé par la télévision suisse en mars 2018, antibiorésistance quand les bactéries nous défient. Hein, c'est le dossier de l'émission cet après-midi avec vous, les professeurs Antoine Andremont et Marie-Cécile Ploix. Il y a donc cette étude qui est notre accroche aujourd'hui, publiée donc fin janvier dans The Lancet. Plus d'un million de personnes, 1 200 000 personnes pour l'année 2019 sont mortes donc d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Professeur Andremont, cette étude montre des chiffres donc très impressionnants. C'est un travail important justement sur l'impact mondial de l'antibiorésistance.
Oui, je crois que c'est la première fois où on a des chiffres non seulement très fiables, vu les méthodologies très modernes utilisées pour les recueillir, mais aussi, aussi importants. Les estimations préalables qu'on avait étaient beaucoup plus faibles. Et de mettre, comme vous l'avez fait, ce chiffre en rapport avec celui d'autres grandes pandémies auxquelles tout le monde pense, évidemment, montre bien l'importance du problème. La difficulté, c'est que l'antibiorésistance, c'est pas comme le sida VIH, c'est pas comme le paludisme ou la tuberculose, c'est pas une maladie des humains. C'est une maladie des bactéries, on pourrait dire. Et c'est quand vous avez une typhoïde, par exemple, qu'elle soit sensible ou résistante aux antibiotiques, vous allez avoir les mêmes symptômes. Quand vous avez une infection urinaire, qu'elle soit sensible ou résistante, les symptômes seront les mêmes. Simplement, on aura du mal à la traiter. Et de plus en plus de mal à la traiter, et dans un certain nombre de cas très important, comme le montre cette étude, eh bien, ça va aboutir à des décès.
Vous dites une maladie des bactéries. Est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement, c'est plutôt une intelligence des bactéries dans leur stratégie à contourner justement les armes qu'on essaye de leur opposer?
Oui, c'est une façon très élégante de voir les choses. Et effectivement, les bactéries, au départ, sont sensibles aux antibiotiques. Quand on a commencé à produire des antibiotiques à partir de 1945, 1950 surtout, et à les utiliser de façon massive et trop importante, comme on en reparlera certainement, eh bien, les bactéries ont réagi comme le monde vivant réagit à chaque fois. Et ma collègue Marie-Cécile Ploix est particulièrement compétente sur ces mécanismes.
On va en parler justement sur les stratégies des bactéries. Marie-Cécile Ploix, juste un petit mot. Est-ce qu'il y avait une étude qui avait été faite en Europe en 2018 déjà? Les chiffres étaient déjà impressionnants à l'époque pour notre continent ou pas?
Oui, les chiffres étaient déjà impressionnants avec 33 000 décès attribuables pour l'Union européenne, pour l'Europe. Et dans le dernier article dont vous avez parlé, dans le Lancet, ouais, quand ils isolent les données Europe, ils retrouvent à peu près la même chose.
Marie-Cécile Ploix, finalement, est-ce que on a beaucoup entendu le fameux slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique », c'est arrivé au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de, je sais pas, d'habituation des corps à ces antibiotiques qui les rendent peut-être moins efficaces ou inefficaces même?
Alors, ce ne c'est pas exactement l'habituation des corps, c'est surtout Mathieu Vidard parlait de l'intelligence des bactéries, c'est surtout la capacité d'adaptation des bactéries dans un environnement stressant, Et les antibiotiques sont un des environnements stressants auxquels elles peuvent être soumises.
Antoine Andremont, est-ce que tous les pays sont touchés de la même manière par le phénomène d'antibiorésistance aujourd'hui sur la planète ?
Non, pas du tout. Et on estime que les pays à faibles et moyens revenus sont les premiers impactés par l'antibiorésistance, parce que les systèmes de contrôle de la transmission des infections et les systèmes de contrôle de la prescription des antibiotiques qui sont beaucoup moins régulés qu'ils peuvent l'être dans les pays comme le nôtre. Et c'est aussi une des difficultés pour mobiliser contre cette pandémie silencieuse, comme vous l'avez appelée, parce que, encore une fois, ça ne se voit pas si vous ne faites pas des tests microbiologiques compliqués pour savoir exactement ce qu'il y a. Or, ces tests microbiologiques, dans les pays en développement, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas les faire, parce qu'il n'y a pas les laboratoires.
Et il n'y a pas de campagne aussi, il y a moins de campagnes sur l'utilisation aussi des antibiotiques. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette campagne dont parlait Camille, dont tout le monde se souvient, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ces messages-là, ils ne sont pas passés dans tous les pays.
Alors, ils sont peut-être passés, mais beaucoup moins qu'ici. Et en tous les cas, même ici, ils ne sont pas suffisants, puisque après l'effet de la campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique. La consommation, certes, a baissé, mais elle est remontée de façon importante.
C'était il y a 20 ans. Hein.
C'était il y a 20 ans seulement, ouais. J'allais dire. C'était pas dans les années 90, non.
C'était 2002. Hein,
oui. Est-ce qu'on sait, Antoine Andremont, si cette campagne, quelque part, a été lancée parce qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui couvait, quoi?
Oui, je crois qu'il y avait clairement les gens qui étaient aux manettes, comme on dit à l'époque, et il faut rendre hommage à Bernard Kouchner, hein, qui s'était rendu compte de ça quand il était à la Santé, ministre de la Santé.
Mais alerté par les chercheurs, les médecins.
Et alerté par les médecins et les chercheurs, et sensibilisé, parce qu'il était lui-même médecin, à ces phénomènes.
Allez, un petit retour en arrière. Les antibiotiques découverts donc en 1930, au tournant des années 30. Et le 11 décembre 45, Alexander Fleming se voyait remettre le prix Nobel de médecine pour la découverte de la pénicilline et de ses effets curatifs dans plusieurs maladies infectieuses.
Du réalisme, en voici encore, car c'est du réalisme intelligent que de récompenser l'effort de la pensée. À Stockholm, la remise des prix Nobel a revêtu en raison de la paix une solennité telle qu'elle n'en avait eu depuis 1901, date de sa création. Le roi Gustave V y a remis au savant anglais Alexandre Fleming et à ses assistants les quelques millions de francs légués par Nobel et qui les récompense de leur découverte de la pénicilline. On sait que Nobel fit sa fortune dans la fabrication des explosifs. Il est juste que cet argent serve maintenant la cause de l'humanité.
Voilà, c'est intéressant parce que lors de son discours au moment de sa remise du prix Nobel, Fleming mettait ses successeurs en garde. Il disait « Voilà le danger, un homme ignorant peut facilement sous-doser ses prises en exposant les microbes à des quantités non létales pour eux, rendre ces derniers plus résistants. » Marie-Cécile Ploy, aujourd'hui, c'est pas le problème du sous-dosage, mais du surdosage qui est justement problématique.
Oui, mais en fait, et c'est très bien rappelé dans l'article du Lancet, c'est aussi le problème du sous-dosage dans certains pays. Alors effectivement, on sait que parmi les facteurs générant de la résistance aux antibiotiques, il y a ce qu'on appelle le mésusage. Soit une trop forte consommation, soit une consommation quand ce n'est pas nécessaire, notamment en cas d'infection virale, où il n'est pas nécessaire de donner des antibiotiques. Et à l'inverse, et c'est très bien dit dans cette étude, dans les pays à faible revenu, où il y a un véritable problème d'accès aux antibiotiques, là, on est presque en sous-dosage puisqu'ils ne peuvent pas traiter certaines infections. Ça génère aussi, ça laisse diffuser les bactéries résistantes.
Marie-Cécile Poix, expliquez-nous justement comment les bactéries justement savent contourner le problème avec ces antibiotiques qu'on essaye donc de leur administrer. Comment elles s'adaptent réellement? Comment ça fonctionne dans le vivant, ça?
Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence des bactéries. J'aime beaucoup cette expression parce qu'effectivement, elles sont capables d'avoir beaucoup d'ingénierie assez magnifique. Et donc, il y a un certain nombre de bactéries qui résistent naturellement à des antibiotiques parce qu'elles ont dans leur génome des gènes qui leur permettent de résister à certains antibiotiques. Et puis, elles sont sensibles à d'autres. Et puis, il y a ce qu'on appelle la résistance acquise, où des bactéries sont capables d'acquérir des résistances, soit par des mutations leur génome, soit, et c'est très souvent le cas, par acquisition d'ADN étranger, c'est-à-dire de l'ADN qui vient d'autres bactéries. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ça peut être des bactéries qui sont très différentes les unes des autres. Et donc, par tout ça part des ce qu'on appelle des éléments génétiques mobiles.
Est-ce qu'on peut, Antoine Andremont, rappeler de façon très simple, un petit peu comme si on revenait dans « Il était une fois la vie », comment ça fonctionne un antibiotique? À partir du moment où on le prend, qu'est-ce qui se passe?
Alors, quand vous prenez un antibiotique, vous pouvez le prendre par la bouche ou par voie veineuse, c'est les deux principales voies. Quand vous le prenez par la bouche, il descend dans votre estomac, il est absorbé, il passe à travers la muqueuse et il va dans votre sang. Et là, il va traiter l'infection, que ce soit l'œil, l'infection urinaire, l'infection osseuse, quoi tout qu'est-ce. Et puis après, il y a une fraction de cet antibiotique qui va soit revenir dans le tube digestif par l'excrétion biliaire. La plupart des antibiotiques reviennent un peu dans le tube digestif par l'excrétion biliaire. Et là, il se retrouve au contact des milliards de bactéries que nous avons dans notre intestin, qui sont des bactéries normales, qui sont ces espèces d'organes, vous avez dû en parler sûrement dans une émission. Et là, ils vont aussi affecter la vie de ces bactéries et les rendre plus résistantes. Et comme ces bactéries et ces antibiotiques qu'on a dans le tube digestif à ce moment-là sont excrétés à l'extérieur, qu'on soit un humain ou qu'on soit un animal, quelle que soit la raison pour laquelle on ait pris les antibiotiques, eh bien de grandes quantités comme ça de bactéries résistantes et d'antibiotiques vont se retrouver dans l'environnement. Et c'est notamment pour ça que les antibiotiques sont maintenant considérés, avec juste raison, comme un problème environnemental, et qu'on ne peut plus dissocier la santé humaine de la santé animale et de la santé environnementale quand on parle des antibiotiques.
On va y revenir parce que c'est l'objet aussi de cette émission, le problème environnemental, parce qu'on les retrouve évidemment dans le corps des humains, des animaux, mais aussi dans les sols, dans les eaux et dans tous les écosystèmes aujourd'hui. Et dans un instant, on va voir justement pourquoi ce phénomène est particulièrement inquiétant et heureusement, quelles sont les pistes qui sont possibles pour lutter contre l'antibiorésistance. Vos messages arrivent sur franceinter.fr. Stranger Smile, c'était Parquet de Quartz.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Alors t'es sous antibiotiques? Alors t'es pas malade?
Les antibiotiques, c'est pas automatique.
On sait qu'il y a des pays, en Asie du Sud-Est notamment, où on peut mourir de nouveau de cystite, donc d'infection urinaire basse, parce qu'il n'y a plus d'antibiotiques pour traiter.
Les souches multirésistantes peuvent infecter des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'hôpital, qui n'ont jamais reçu d'antibiotiques et qui n'ont jamais été malades avant. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau qu'on ne voyait absolument pas il y a 10 ans et qui nous préoccupe beaucoup.
Extrait d'un reportage de France 5, on parle donc de l'antibiorésistance avec nos invités, les professeurs Antoine Andremont avec nous à Paris et Marie-Cécile Ploy en duplex de Limoges. On parlait d'un problème environnemental, Marie-Cécile Ploy. Il y a des études très claires là-dessus, sur la dissémination de la résistance dans l'environnement. On peut dire aujourd'hui que tous les êtres vivants sont touchés par l'antibiorésistance ?
Oui, effectivement, il y a une dissémination dans l'environnement. Alors, elle est double. À la fois, il y a la dissémination des molécules antibiotiques. Certaines restent très longtemps dans l'environnement, mais il ne faut pas oublier aussi les biocides qui sont utilisés pour le nettoyage, que ce soit dans les hôpitaux ou chez soi. Et effectivement, il y a tout un impact sur l'ensemble de l'écosystème et de la faune aussi.
Une question d'Annie sur franceinter.fr, elle demande si on est moins susceptible d'être victime d'antibiorésistance si on n'a que très rarement été soigné par antibiotiques au cours de sa vie, Antoine Andremont.
Alors, c'est vrai, elle a raison, mais comme vient de le dire le témoignage que vous avez passé, ça n'est malheureusement pas une garantie absolue, puisque vous pouvez acquérir une bactérie déjà résistante à partir d'un autre patient, si vous êtes à l'hôpital, ou à partir de l'environnement, si vous n'y êtes pas.
Et est-ce qu'on peut, demande Fabrice, toujours sur franceinter.fr, via l'alimentation animale ?
Alors, l'alimentation animale est une source de bactéries antibiorésistantes, hein, pour l'homme, c'est absolument démontré. Mais ça ne représente pas l'entièreté du problème de la résistance chez l'homme. Hein. On estime qu'il y a à peu près 20% de la résistance des bactéries chez l'homme qui est due à l'antibiothérapie animale. Et c'est pour ça qu'on essaye de la contrôler. Il faut souligner à ce niveau-là les très gros efforts qui ont été faits en France par les éleveurs et par les agriculteurs, qui ont diminué de façon considérable l'utilisation des antibiotiques depuis une dizaine d'années.
Marie, Cécile Poix, d'ailleurs, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur là au mois de janvier précisément, hein, sur la question de l'élevage.
Oui, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur sur l'utilisation effectivement d'antibiotiques. Comme l'a dit Antoine Andremont, le monde vétérinaire est exemplaire, hein, avec une diminution drastique de la consommation qui se voit tout de suite, enfin pas tout de suite, mais en décalé assez rapidement sur un impact sur la diminution de la résistance. Mmh. Et l'Office mondial de l'Organisation mondiale de la santé humaine et animale se sont concertés pour interdire dans le monde vétérinaire certaines molécules qui, si des résistances se développent, auraient un impact important en santé humaine.
Est-ce qu'on a des résultats d'ailleurs rapides, c'est-à-dire dès lors qu'on arrête les antibiotiques, est-ce qu'effectivement on voit que ce phénomène de résistance commence, Antoine Andremont, à devenir moins important?
Oui, ça va assez vite. Et
donc ça, c'est encourageant quand
même.
C'est
une très bonne nouvelle. Et on a eu la chance avec mon collègue, le professeur Josu de Cayenne, d'observer les choses sur une dizaine d'années dans un village amérindien qui est assez isolé dans le sud de la Guyane, à Trois Sauts. Et on a très bien vu que quand on régulait la consommation d'antibiotiques dans ce village, la circulation des bactéries résistantes suivait. Très rapidement. On l'a vu aussi, comme vient de le dire Marie-Cécile Ploy, très rapidement chez les animaux.
L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, affirme que si on ne prend pas des mesures d'urgence, on va entrer dans une ère post-antibiotique. Ça voudrait dire quoi alors? Que ça ne fonctionnerait plus comme traitement?
Oui, et ça aurait des conséquences extrêmement rapides et importantes. Par exemple, certaines infections qu'on a parfois après des interventions très banales, je pense aux césariennes, je pense
à l'appendicite,
on vous donne une petite dose d'antibiotiques de façon systématique pour que vous n'ayez pas d'infection après. Si les antibiotiques n'étaient plus efficaces, ce genre d'intervention redeviendrait beaucoup plus risqué.
Même sur de simples blessures, hein, ça pourrait devenir
même
problématique.
Sur de
hein, c'est ce qui est indiqué.
Camille, des questions. Un message de Catherine, oui, qui nous écrit qu'en 1978, elle était en maîtrise de biologie moléculaire avec certificat entre autres microbiologie et génétique. Je me souviens, nous dit-elle, d'un article paru cette année-là où l'auteur rappelait les risques liés aux antibiorésistances et préconisait que les antibiotiques soient mis dans des listes. Ceux d'une des listes ne seraient pas utilisés pendant quelques années, le temps que l'antibiorésistance à ceci est bien diminuée puisque la pression aurait disparu. Marie-Cécile Ploy, est-ce que ça peut être des techniques, des moyens d'essayer de relâcher la pression, justement, ou pas?
Alors, il y avait eu des études sur, justement, faire tourner les différentes molécules qu'on utilise. À ma connaissance, il n'y a pas des effets exceptionnels sur l'antibiorésistance, mais en revanche, la notion de liste que vous décrivez est utilisée maintenant avec des listes d'antibiotiques critiques. Alors, selon les pays, les listes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais effectivement, à l'échelle mondiale, il y a une liste d'antibiotiques critiques qui est définie. Et pour cibler les actions de bon usage, particulièrement sur ces antibiotiques-là.
On va écouter le message vocal de Rodi qui nous appelle de Bucarest. Il vient composer l'application, enfin il est allé tout simplement sur l'application France Inter.
Il faudrait déjà limiter l'usage des antibiotiques aux seules maladies nécessaires. On a plus ou moins réussi à le faire en France avec les politiques de santé publique, mais c'est loin d'être le cas dans tous les pays. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il faudrait aussi s'interroger au niveau vétérinaire, c'est-à-dire principalement dans les élevages et surtout les élevages intensifs. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi limiter ou peut-être réglementer là, même si effectivement ça ne coûte pas cher les antibiotiques, ça règle pas mal de problèmes, mais est-ce que ça n'en crée pas plus que ça n'en règle sur le long terme?
Alors Antoine Andremont, on va répondre en deux parties la question de l'élevage dans un second temps. Première question donc, attribuer les antibiotiques qu'aux maladies nécessaires. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une vraie éducation de la part aussi des médecins à faire aujourd'hui?
Oui, il y a bien sûr une éducation des médecins à faire. Je crois que des actions sont entreprises au niveau des études médicales hein, et au niveau des enseignements post-universitaires, mais ça prend un certain temps. Et malheureusement, si on prend l'exemple de la France sur ces dernières années, on a un petit peu de mal à faire décrocher la consommation des antibiotiques parce que les habitudes sont là, parce que l'épidémie de Covid a probablement fait relâcher de nombreux efforts. Hein, il faut jamais penser que c'est gagné. Qu'on disait tout à l'heure.
Pourtant, les antibiotiques agissent pas sur les virus, hein, c'est que sur les bactéries, justement. Donc, quel est le lien avec le Covid?
Eh bien, un certain nombre de patients qui ont des infections respiratoires ont systématiquement des antibiotiques avant qu'on sache quelle infection respiratoire.
Encore une question, parce qu'il y a un vrai dilemme aussi pour les soignants. On parle des médecins, mais les soignants qui doivent faire face à des urgences aussi, donc prescrire des antibiotiques, c'est extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on donne l'antibiotique pour réagir au moment là où on a le malade devant soi? Ou est-ce qu'on pense aux effets délétères sur le long terme?
Alors, mon opinion personnelle est qu'il faut toujours privilégier le bien-être et le traitement du patient en premier. Mais maintenant, il faut avoir à l'esprit le reste, et c'est pour ça que, en même temps que lorsque le patient est grave, on met en route une antibiothérapie, il faut s'acharner à faire le vrai diagnostic pour savoir si c'est viral ou bactérien. Et c'est pour ça que les tests rapides, comme un certain nombre d'entre eux sont disponibles, permettent de mieux faire de la médecine. C'est le bon usage des antibiotiques dont parlait Marie-Cécile Poix tout à l'heure.
Camille, sur la question de l'élevage, pour répondre à notre auditeur et puis également à d'autres auditeurs.
Oui, Monique, par exemple, nous parle, elle aussi, des élevages industriels porcins en Bretagne. Elle dit les antibios sont relargués dans la nature par les épandages et les eaux usées. Ces antibios se retrouvent également dans les sables des plages et des eaux côtières et impactent les micro-organismes. Il y a une vraie chaîne comme ça, Marie-Cécile Poix, qui se met en place. Il y a d'autres messages. Hein. Jacques aussi nous parle de l'utilisation intensive des antibiotiques dans les élevages industriels.
Oui, il y a totalement une vraie chaîne qui se met en place et c'est pour ça qu'il est très important maintenant d'inclure l'environnement dans les recherches et dans la réflexion sur la maîtrise d'antibiorésistance selon le concept une seule santé. Et dans les eaux usées, je disais tout à l'heure, on sait qu'il y a des molécules, mais on sait aussi qu'il y a des bactéries résistantes et des gènes de résistance qui circulent et qui peuvent être échangés. Et la question des boues de stations d'épuration est une vraie question puisqu'elles sont encore actuellement utilisées, effectivement, comme fertilisant, comme dans les épandages. Donc ça, c'est une vraie question sur ce risque-là.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a énormément de questions pour vous sur le site de la Terre au Carré. On va voir évidemment comment lutter contre cette antibiorésistance, car je vous le disais tout à l'heure, heureusement, il y a quand même des pistes envisagées.
France Inter. La Terre au Carré.
14h32, Camille Cronier, vous passez au vert.
Et attention, jeu de mots. Aujourd'hui, je passe au vert. V-E-R. Je me surpasse, n'est-ce
elle
pas?
Elle est bonne, elle est bonne.
Un nouveau vert que le professeur Jean-Loup Justine, zoologue au Musée National d'Histoire Naturelle, Muséum National d'Histoire Naturelle, vient de décrire officiellement. Voici la petite photo sonore.
C'est un vert de 2 à 3 cm de long, plat, allongé, avec une tête qui est plus large que le corps. Et sa particularité, c'est sa couleur qui est totalement noire, un noir métallique brillant.
Presque comme du liquide avec donc une tête de marteau au bout. Et son petit nom, c'est...
Umbertium covidum.
Alors, vous avez bien entendu, oui, référence Covid, oui. Parce que les chercheurs ont travaillé sur cette nouvelle espèce pendant les confinements. Et puis, ajoute Jean-Loup Justine...
Il ne nous a pas échappé non plus que ce ver vient d'Asie et qu'il a un potentiel à devenir dangereux et invasif. Et donc, le rapport avec le Covid était peut-être un peu plus proche.
Et voilà, vous aurez compris qu'Umbertium covidum n'est pas un cadeau, espèce potentiellement invasive, qui a été signalée 2 fois pour l'instant en France depuis 2019. Dans les Pyrénées-Atlantiques à chaque fois, et notamment par Geneviève Roland, habitante de Billière, juste à côté de Pau, que j'ai appelée du coup pour qu'elle me raconte.
Ben, moi je suis tombée nez à nez avec lui parce que dans mon jardin, si vous voulez, il y a des zones où j'ai mis des bâches en plastique noir pour éviter que les herbes ne poussent. Voilà. Donc je soulève mes bâches, je soulève mes pots et je suis tombée sur celui-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ?
Et comme Geneviève est du genre curieuse, en plus d'être observatrice, et qu'elle elle connaît en plus un rayon en vert, hein, avec 4 espèces invasives dans le petit jardin de sa maison de ville, et ben, du coup, elle contacte le professeur au muséum.
J'ai pris une photo, j'ai envoyé à Jean-Loup, qui m'a dit « Ouais, super ! Vite, vite !»
Voilà, à fond dans la science participative, Jean-Loup Justine, qui, grâce au spécimen que lui fait parvenir Geneviève Roland et d'autres, commence à pouvoir faire un portrait robot d'Umbertium covidum.
Ce qu'on sait, c'est que c'est un... prédateur, c'est un carnivore, et nous avons des preuves qu'il consomme des petits escargots.
Entre autres, hein, des petits escargots avec des conséquences donc sur tout l'équilibre de la biodiversité du sol concerné, des jardins qui peuvent être envahis. Hein, on a vu en Italie des milliers de ces vers dans un même lieu. Alors comment ont-ils débarqué là en venant d'Asie? Il le disait, comme tous les bipalinés, les vers prédateurs à tête de marteau. Réponse:
cet animal est probablement arrivé à la fois en France et en Italie par le transport de plantes en pot. Puisque très souvent, ces animaux sont transportés dans la terre des plantes en pot.
Et voilà, encore un coup de la mondialisation et de la circulation des marchandises avec cette petite originalité, hein, c'est que même en Asie, personne ne l'a jamais décrit. Donc, on ne connaît pas le pays d'origine. Dans son jardin près de Pau, Geneviève Roland les guette.
Je sais qu'il y en a. Le problème, c'est d'arriver à les voir.
Et voilà, parce que la bête est discrète, bien planquée. Je suis un petit peu, j'ai un peu de mal à rebondir, pardon. Donc la bête est discrète, bien planquée, surtout en ce moment dans la terre. C'est au printemps hein, qu'elle prendra l'air. Alors si vous tombez dessus, surtout, attention,
ah bon,
pas touche.
Les bipalinés sont capables de produire une des toxines les plus dangereuses, qui s'appelle la tétrodotoxine, qui est un neurotoxique. Donc je conseille de ne pas les toucher si on les trouve.
Pour les chiens ou les chats, on ne sait pas, mais Jean-Loup Justine, lui, il a des éléments au sujet des poules.
Elle va le manger, et puis ensuite elle va essayer de le recracher, et ensuite elle n'en mangera plus jamais. Parce que le goût de ces animaux est absolument horrible pour ceux qui les consomment.
Mmh, on adore, non, ce Umbertium covidum. Donc si vous en repérez, voici la marche à suivre.
L'important, c'est de le signaler. Donc, 1, faire une photo, 2, écraser.
Eh oui, écrabouillement autorisé.
On a le droit de le tuer, c'est un animal envahissant qui normalement ne devrait pas être dans le système écologique de nos sols.
Sinon, bah, vous faites comme Geneviève.
Je les récolte, je les envoie à des chercheurs qui ont besoin de spécimens vivants pour leur recherche. Moi, ça me débarrasse mon jardin de ces vers invasifs et en plus, ça fait avancer la recherche.
Enfin, à condition quand même que le transport se passe bien, hein, sinon bah, vous aurez bien compris le petit cercle vicieux, ils vont se répandre encore plus. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous vous renseignez. On a mis les liens vers toute la marche à suivre avec également photos et vidéos sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré.
Voilà, vous allez en story sur le compte Instagram de la Terre au Carré et vous verrez donc ce fameux Umbertium covidum en vidéo qui n'est pas très gracieux. Camille parlait de la mondialisation de la circulation des marchandises. Antoine Andremont, on peut parler du même problème finalement pour l'antibiorésistance, sauf que c'est la circulation des personnes.
Hein. C'est la circulation des personnes
et la circulation des animaux et des denrées alimentaires, parce que la mondialisation commerciale des produits alimentaires et des animaux de rente, comme on dit, est très grande. Et comme ça, des bactéries qui se trouvent à l'autre bout du monde peuvent en 24 heures venir ici, soit avec des humains dans leur tube digestif qui prennent l'avion et qui se déplacent. Chacun d'entre nous, bien sûr.
Ouais.
Et on sait, par exemple, que les touristes qui vont faire du tourisme dans un certain nombre de régions avec une hyper-endémie de résistance, quand ils reviennent ici, dans leur pays d'origine, ils sont beaucoup plus colonisés avec des bactéries résistantes que les sujets qui n'ont pas bougé.
Ouais, mais justement, Marie-Cécile Ploy, Antoine Andromont disait tout à l'heure, pendant le Covid, on a vu une accentuation du phénomène. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'au contraire, il y a eu finalement une phase de calme avec le confinement, l'arrêt des échanges? C'était observé, ça, ou pas du tout?
Alors, il y a quelques études, effectivement, sur la consommation des antibiotiques pendant le Covid. Ce qu'on a vu, c'est une augmentation globale avec certaines molécules suite à des premières déclarations hein, sur certains antibiotiques, mais qui en fait n'avaient pas d'efficacité et sur lesquels les gens se sont rués. Mmh. Et donc ça a faussé un peu les chiffres globaux de consommation d'antibiotiques.
Allez, l'antibiorésistance, dossier de la Terre au Carré, beaucoup de questions de votre part, on les transmet à nos invités dans un instant, juste après Vertigo et Juliette Armanet.
Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux, que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche, mine de rien je tiens pas bien sûr mes touches.
Et la voix de Juliette Armanet avec Vertigo et Thierry Dupin, bien sûr, pour la programmation musicale de La Terre au Carré.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
Les professeurs Antoine Andremont, Marie-Cécile Ploy répondent à vos questions pour parler de l'antibiorésistance, un sujet visiblement que vous connaissez bien et qui vous mobilise également sur les réseaux sociaux. Comment on lutte efficacement contre ce phénomène, Marie-Cécile Ploy? C'est quoi la première des pistes à explorer?
C'est difficile de répondre en première parce qu'il y en a au moins 4-5. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule, surtout, il n'y a pas qu'une seule méthode miracle. Puisqu'on voit bien les différences de chiffres dans cet article du Lancet, selon les pays à haut revenu et les pays à bas revenu. Et il ne faudrait pas se tromper en pensant que ce qu'on met en place dans les pays à haut revenu seront les solutions efficaces aussi dans les pays à plus bas revenus, pour lesquels je pense que la première, si on devait en choisir une pour répondre à votre question, la première des choses serait d'améliorer les conditions d'hygiène, d'accès à l'eau, les conditions sanitaires. Hein. Il y a des chiffres qui circulent comme quoi 60% des personnes en Inde n'ont pas accès à des toilettes. Donc vous imaginez tout de suite ce qui peut disséminer et se transmettre de personne à personne, mais aussi dans l'environnement.
Avant même l'usage raisonné des antibiotiques ?
Non, bien sûr, il y a en même temps l'usage raisonné, mais votre question se portait sur une, et effectivement selon les pays, et bien sûr l'usage raisonné des antibiotiques et toutes les campagnes en France, mais aussi en Europe ou ailleurs, sont sur ce créneau, avec un usage raisonné aussi bien, comme on en a parlé tout à l'heure, chez l'animal que chez l'homme, qui passe par ne pas donner d'antibiotiques si effectivement c'est une infection virale, mais qui passe aussi pour les patients, pour le grand public, à bien prendre l'antibiotique tel qu'il a été prescrit. Et parfois, si on vous prescrit un traitement de 5 jours, au bout de 2-3 jours, vous allez mieux. Et ne surtout pas arrêter le traitement, car ça aussi, ça peut induire de la résistance aux antibiotiques.
Antoine Andremont, pour prolonger ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation, notamment des médecins, Nathalie nous écrit, n'y a-t-il pas de quoi s'étonner du fait que les campagnes, notamment les antibiotiques, c'est pas automatique, semblent cibler le grand public alors qu'ils ne sont pas en vente libre, on le rappelle, les antibiotiques, et que leur prescription est décidée par des médecins ou des vétérinaires?
Oui, bien sûr. Bien sûr, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on a un gros déficit de connaissances en sciences humaines et sociales sur les déterminants de l'utilisation des antibiotiques, à la fois chez les médecins et chez les patients. Et je crois que un des domaines où il faut qu'on fasse des efforts pour mieux adapter, comme vient de le dire Marie-Cécile, pour mieux adapter nos recommandations aux conditions des pays dans lesquels on veut les appliquer, je crois qu'il faut qu'on fasse un gros effort en sciences humaines et sociales. Vous avez parlé tout à l'heure de sciences participatives. En antibiothérapie, il n'y a pratiquement rien eu en termes de sciences participatives. Et c'est probablement quelque chose de très important pour bien comprendre où il faut mettre l'effort.
Mais ça, ce ne sont pas ce qu'on appellerait des études cliniques, tout simplement, la science participative dans l'antibiothérapie ?
C'est probablement plus que ça, c'est la science clinique bien sûr, mais aussi la compréhension de ce qui fait que les gens demandent des antibiotiques parfois à leur médecin alors que ça n'est pas nécessaire, quelles sont les résistances pour le coup à ne pas en prendre chez certains patients ou au contraire à en prendre trop chez d'autres, et ça c'est encore très peu étudié. Je crois personnellement qu'on a beaucoup de progrès à faire là-dedans.
Un traitement dont on parle beaucoup, en particulier dans les pays de l'Est, un peu en France mais très peu, c'est la phagothérapie. Ça ressort beaucoup d'ailleurs dans les messages de nos auditeurs. Je vous propose, pour bien comprendre de quoi il s'agit, un petit reportage de l'AFP, c'était en septembre 2017, avec Frédéric Laurent qui est microbiologiste et Tristan Ferry, infectiologue.
Donc là, maintenant, je vais prendre la dilution, je vais faire le cocktail, le mélange.
Ce matin-là, dans les seringues du pharmacien en chef de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, des phages ou bactériophages, des virus capables de détruire des bactéries.
Ces virus viennent se coller sur les bactéries, rentrent à l'intérieur, et pour simplifier, elles les tuent depuis l'intérieur et les bactéries sont lysées. Et en fait, ça a à peu près la même efficacité qu'un antibiotique.
Aujourd'hui, l'antibiorésistance les fait ressurgir comme une alternative possible pour certains patients comme Monsieur P, victime d'une bactérie résistante à absolument tous les antibiotiques disponibles.
Vous voyez que c'est sa colonne vertébrale, il existe un abcès au niveau du disque. Et on sait que pour guérir de ce type d'abcès, il faut utiliser un traitement anti-infectieux. Et ici, comme les antibiotiques ne sont pas actifs, on propose un traitement par bactériophage en espérant qu'ils vont pouvoir se multiplier et détruire cette bactérie.
Un traitement de la dernière chance autorisé à titre compassionnel, c'est-à-dire pour les patients en impasse thérapeutique, mais sans garantie de réussite.
Voilà, la phagothérapie, certains patients français allant même jusqu'en Géorgie, par exemple, pour bénéficier de traitements. Marie-Cécile Ploy, c'est pas du tout une technique qui est utilisée chez nous, très peu, à part cette équipe de Lyon qui l'expérimente?
Alors jusque-là, très peu, mais de plus en plus maintenant, effectivement, on voit des essais cliniques qui sont en développement actuellement, dont des essais en France. Il y a des biotech françaises qui travaillent sur la phagothérapie. Et on voit maintenant des patients inclus dans des essais cliniques pour des indications particulières avec de la phagothérapie.
Antoine Andremont, malgré tout, ça reste assez marginal quand même, hein ?
Oui, je crois que ça. Je crois que la phagothérapie a souffert un petit peu de pas avoir été développée de façon très rationnelle et très scientifique comme on aurait pu l'espérer. Et je crois qu'il faut absolument féliciter les collègues lyonnais qui ont une approche très pertinente, très contrôlée, qui font, on va dire, extrêmement attention dans l'utilisation de ces objets vivants hein, que sont les phages. Et il y aura très probablement des indications très précises. Il est peu probable que ça devienne un traitement de masse pour de très très nombreux patients pour un certain nombre de raisons. Mais voilà, il faut développer ça comme les autres médicaments avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention à la possible toxicité. Enfin, il faut faire. Il faut
là,
faire
c'est des virus hein, qui sont utilisés. Ce sont c'est des ce virus. Qui dit dans le reportage.
Voilà.
Hein.
Ce sont des virus, donc des êtres vivants, donc qui peuvent évoluer aussi.
Marie-Cécile Ploix, comment les laboratoires sont en train de travailler un petit peu partout dans le monde par rapport à ça? Est-ce qu'ils augmentent les doses dans les antibiotiques pour essayer de contrer l'antibiorésistance ou au contraire, ils essayent de voir d'autres pistes?
Vous voulez dire les laboratoires pharmaceutiques?
Oui, enfin ceux qui fabriquent les antibiotiques.
Oui. Ben, y a des pistes pour essayer de trouver des nouvelles molécules avec des nouveaux mécanismes de résistance. Il y a aussi beaucoup de travaux sur des associations de molécules avec des molécules actives plus des inhibiteurs de protéines de résistance aux antibiotiques pour contrecarrer la résistance. La difficulté qui existe à l'heure actuelle pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est les incitations économiques, puisque on sait que c'est 10 ans de développement et que le marché, bien évidemment, est réduit, puisque quand un nouvel antibiotique sort, on ne veut pas, pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent, qu'il soit trop prescrit. Et donc, ça représente économiquement un petit marché. Et donc, c'est très important de pouvoir aider les biotech et les laboratoires pharmaceutiques pour développer la recherche sur des nouveaux antibiotiques.
Mais on est, Antoine Andremaux, est-ce qu'on pourrait considérer qu'on est dans une sorte de cercle vicieux ou pas?
Oui, c'est assez compliqué, hein, et pour l'instant, personne n'a, comme on dirait, la martingale pour sortir de cette difficulté économique qu'a indiqué Marie-Cécile Ploix. Il est probable que l'amélioration des tests diagnostiques sera une voie privilégiée pour développer les nouveaux antibiotiques, pour savoir à qui il faut les donner et à qui il ne faut pas les donner, un peu comme dans les maladies orphelines, si vous voulez.
Alors, Antoine Andremaux, vous parlez d'économie. Est-ce qu'on a réussi à chiffrer le coût mondial, finalement, de cette antibiorésistance? Il y a des chiffres stratosphériques hein, qui circulent.
Oui, il y a des chiffres stratosphériques que je répéterai pas parce que l'économie n'est pas mon meilleur domaine. Mais il y a eu des études de la Banque mondiale qui ont clairement montré que l'impact de l'antibiorésistance, c'était plusieurs points de PIB qui étaient perdus. Mmh. Et c'était particulièrement dans les pays à faible et moyen revenu que ça se fait sentir. Donc il y a une c'est pour ça que c'est plus qu'un problème médical, ça devient une espèce de problème général hein. Là aussi les sociologues peuvent probablement nous aider à mieux le comprendre.
Ouais. Marie-Cécile Ploix, vous souhaitez réagir?
Il y avait aussi une étude très intéressante de l'OCDE il y a 3-4 ans qui montrait que en Europe, si on investissait 2 euros par habitant par an, on pouvait résoudre le problème de l'antibiorésistance.
Un témoignage maintenant sur franceinter.fr de Claire qui est vétérinaire. Elle nous dit « Je voulais témoigner sur le fait que notre profession est très contrôlée concernant l'usage des antibiotiques, que ce soit envers les animaux de rente ou de compagnie. » Marie-Cécile Ploix. Au niveau, on le disait tout à l'heure hein, rapidement, il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait de ce côté-là. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de marge de progression ou pas en ce qui concerne les élevages, puisqu'on a énormément de messages d'auditeurs sur ce sujet?
Alors, sur les élevages, c'est vrai que, notamment en France, il y a eu des efforts considérables, comme on l'a dit tout à l'heure, mais malheureusement, ce n'est pas partout pareil dans le monde, puisqu'il y a encore des antibiotiques qui sont donnés à petite dose, hein, comme ce qu'on appelle des promoteurs de croissance, c'est-à-dire que quand vous donnez à des animaux de rente des antibiotiques en petite quantité, ça augmente la productivité. Donc, vous faites grossir les animaux plus vite et vous avez un meilleur rendement. Et c'est prescrit en Europe depuis de nombreuses années, mais pas dans tous les pays. Et donc ça, c'est un véritable souci. Quant aux animaux de compagnie, on a, sur l'épidémiologie de la résistance aux antibiotiques, on a peu de données sur les animaux de compagnie, il y en a un certain nombre, et c'est des choses à développer. Justement, c'est intéressant de pouvoir faire des études en comparant ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe chez les animaux de compagnie, puisqu'ils vivent ensemble.
Donc, il y a encore de la recherche à faire dans ce domaine. Allez, encore quelques questions pour vous dans un instant, juste après Le Petit Oiseau de toutes les couleurs. C'est celui de Gilbert Bécaud.
Ce matin, je sors de chez moi. Il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir, mon Dieu qu'il est, des drôles à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Hop ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il faisait beau, je l'ai suivi. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, va pas si vite, dis, attends-moi comme t'es pressé, dis, rendez-vous, dis, là où tu vas, dis, je vais avec toi. On passe devant chez Lucho, qui me fait hé, hey, qui me fait oh. Je ne me suis pas arrêté, pardon l'ami, je cours après. Petit oiseau de toutes les couleurs, un petit oiseau de toutes les couleurs. Sur l'avenue, je ne l'ai plus vu. J'ai cru que je l'avais perdu, mais je l'ai entendu siffler. Et c'était lui qui me cherchait. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis, va pas si vite, dis, attends-moi comme des pressés, dis, là rendez-vous, dis, là où tu vas, dis, je vais avec toi. On est arrivé sur le port, il chantait de plus en plus fort. S'est retourné, m'a regardé, au bout de la mer, s'est envolé. Je peux pas voler, je peux pas nager, je suis prisonnier, dit, m'en veux pas. Hey, bon voyage, dit, reviens-moi vite, dit, le petit oiseau de toutes les couleurs.
Inter. La Terre au carré.
Encore quelques minutes avec nos invités, les professeurs Antoine Andremont et Marie-Cécile Poix, pour parler de l'antibiorésistance. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans La Terre au carré? Parce qu'on le disait tout à l'heure, Antoine Andremont, on est face à un vrai problème écologique quand même.
Oui, absolument. Je crois que c'est la grande prise de conscience de ces dernières années. C'est que, bien sûr, la conséquence de l'antibiorésistance, c'est d'abord des malades qu'on peut pas soigné ou moins bien soigné, mais c'est en fait un problème multifacette qui touche les hommes, les animaux, l'environnement, comme on en a largement parlé, et qu'il faut prendre dans sa globalité. On parle beaucoup aujourd'hui du concept d'une seule santé, c'est-à-dire
le One Health.
Le One Health, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la santé des hommes, la santé des animaux et la santé de l'environnement sont intimement liés, et lorsque vous mettez des antibiotiques à un endroit quelconque de cette chaîne, ça a des répercussions sur les autres. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'il faut retenir.
Et sans être trop catastrophiste, ça veut dire que c'est une menace sur l'ensemble du vivant, donc cette antibiorésistance, clairement.
C'est une menace directement, bien sûr, sur les bactéries, mais comme les bactéries, dans un certain, bien qu'elles soient bénéfiques la plupart du temps aux autres espèces, dans un certain nombre de cas, rendent malades les autres espèces, que ce soit les hommes ou les animaux, eh bien, il peut y avoir des conséquences très délétères.
Nicole demande la durée de vie des antibiotiques et de leurs métabolites rejetés dans la nature. Est-ce qu'on le sait, ça, Marie-Cécile Ploix?
On le sait pour certaines molécules comme la famille des quinolones qui sont très stables dans les eaux usées pendant un certain temps, oui. Alors que d'autres sont dégradées très rapidement. mais certaines sont présentes très longtemps et participent à la sélection, à la maintenance de l'antibiorésistance dans l'environnement.
Une autre question de Fabrice, on a répondu rapidement tout à l'heure, mais on va lui redire, Antoine Andremont. Il demande, quand on est devenu antibiorésistant, est-ce qu'on le reste toute sa vie après l'arrêt de l'utilisation d'antibiotiques ?
Non, ça diminue progressivement. Et plus le dernier traitement antibiotique est lointain, moins les effets sur vos propres bactéries se font sentir.
Et alors Marie-Cécile Ploy, puisqu'on parle d'un véritable problème écologique, comment on agit alors sur l'environnement, là justement, pour lutter contre le phénomène d'antibiorésistance ?
Alors il y a plusieurs actions. Tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment s'organiser parce qu'il y a plusieurs laboratoires de recherche qui travaillent et des agences de l'eau sur la problématique, mais peut-être pas de façon assez concertée. Donc il faut des vrais réseaux de surveillance avec des indicateurs communs. Et Antoine Andremont a participé au niveau de l'Organisation mondiale de la santé à une étude qui s'appelle Tricycle, qui utilise le même indicateur de résistance chez l'homme, chez l'animal et aussi dans l'environnement. Donc ça, c'est très important. Établir aussi une liste de molécules qui sont des co-sélecteurs de la résistance, puisqu'il y a les antibiotiques dans l'environnement, mais il y a aussi d'autres molécules, oui. Des biocides, mais aussi on peut retrouver des métaux lourds, donc ça c'est très important. Et puis avec le changement climatique, on sait aussi avec la pollution des microplastiques, il y a des études qui ont montré que les microplastiques augmentaient les échanges de gènes entre les bactéries, et donc on imagine bien aussi tous les effets du changement climatique, au-delà aussi des mouvements de population sur la résistance aux antibiotiques.
En tout cas, beaucoup de choses à faire et des choses assez efficaces rapidement aussi. Donc c'est peut-être qu'on peut retenir aussi sur les stratégies de lutte, Antoine Andremont, hein, c'est qu'on peut quand même agir rapidement.
On peut agir rapidement, par exemple, en diminuant les antibiotiques chez les animaux, vous diminuez leur excrétion de méthane.
Donc et propagation...
Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre.
Absolument, dans l'atmosphère. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux équipes de France Bleu Limousin à Limoges qui nous ont permis ce direct. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce dossier en podcast sur franceinter.fr. Juste après sa diffusion, c'est-à-dire dans quelques minutes.